Fréquence Mistral.
En ce début d'avril 2026, nous sommes partis à l'Estac pour rencontrer les bénévoles et militants qui préparent la prochaine flottille pour la liberté, la flottille pour Gaza, un mouvement international pour contester le blocus sur Gaza avec un objectif d'acheminer de l'aide humanitaire et d'attirer l'attention des médias sur ce qui se déroule actuellement sur les territoires palestiniens et plus précisément à Gaza. Nous sommes donc arrivés dans un chantier immense à l'Estac où dans un hangar on a rencontré des centaines de bénévoles et militants en train d'organiser cette flottille, de travailler en tout cas à sa réalisation, et j'ai rencontré en premier lieu Esther qui m'a amené sur un voilier, qui me l'a fait visiter et que j'ai pu interviewer. On va l'écouter tout de suite. Alors, je suis dans le voilier de Man. C'est un magnifique voilier et on est actuellement donc avec Esther. Esther qui fait partie de l'organisation Thousand Malin to Gaza, donc l'organisation qui prépare cette flottille pour Gaza. Esther, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la démarche et qu'est-ce que la flottille pour Gaza ?
Du coup, effectivement, moi je m'appelle Esther, je fais partie de Thousand Malin to Gaza, qui est une des organisations de flottille qui prépare du coup une flottille pour partir en direction de Gaza là d'ici quelques semaines. Donc comment expliquer l'organisation ? Donc les flottilles, en fait, elles s'ancrent dans une histoire de solidarité avec la Palestine qui ne date pas d'hier. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a des militants et des militantes et des personnes solidaires de la Palestine qui s'organisent. Il y a eu beaucoup de marches qui ont été faites jusqu'en Palestine, de récolte d'olives. Et en 2008, effectivement, au moment où il y a un blocus qui n'est pas nouveau à Gaza et en Palestine, et donc il y a des gens qui se disent, bah, en fait, par la terre, c'est compliqué, et on va essayer de briser ce blocus par la mer. Donc en 2008, on a des personnes qui disent, voilà, on va briser ce blocus par la mer, et donc il y a un premier bateau qui arrive jusqu'à Gaza et qui du coup brise le siège, enfin qui arrive jusqu'aux côtes. Et donc de cette première expérience, il y a une coalition qui se fonde qui s'appelle la Freedom Flotilla Coalition, qui est un mouvement qui existe encore aujourd'hui, qui envoie un premier bateau en 2010 sur lequel 10 de nos camarades turcs sont assassinés par Israël. Et donc ce moment-là, c'est un moment quand même marquant dans l'histoire des flottilles, et ça marque aussi une certaine détermination, notamment par les camarades turcs, de dire, bah, en fait, on va renvoyer des flottilles jusqu'à ce que la Palestine soit libre, jusqu'à ce que ce blocus à Gaza mené par Israël soit brisé. Et donc depuis 2010, il y a plus de 35 mouvements de flottilles, enfin plus de 35 vagues de flottilles qui se sont élancées vers Gaza. Et donc une de celles qui a été très connue dernièrement et dont vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est la Madeleine, sur laquelle il y avait Rima Hassan et Greta Thunberg, qui est effectivement une des flottilles qui a été la plus médiatisée dans l'histoire des flottilles. Et donc quand l'équipage de la Madeleine s'est fait arrêter, il y a des personnes sur Insta qui ont lancé un post en disant, en fait, ils peuvent arrêter une Madeleine, mais qu'est-ce qui se passe si on envoie beaucoup plus de bateaux? Et donc c'est de cette réflexion-là que naît le nom de notre mouvement, Thousand Madeleines to Gaza, qui veut dire on envoie 1000 Madeleines vers Gaza. Et donc on a lancé une organisation qui est une organisation populaire, citoyenne, internationaliste, basée sur tous les continents, qui vise à briser le siège de Gaza, qui vise à créer un mouvement de solidarité avec Gaza, mais aussi de condamner et de s'attaquer à ce qui permet le génocide actuellement à Gaza, qui sont notamment des industries, l'industrie de l'armement, mais bien plus largement des industries qui financent et des gouvernements qui, via la diplomatie, le médiatique, la finance, en fait, aident et participent activement au génocide en Palestine. Nous, notre organisation, donc il y en a d'autres qui se sont lancés à peu près au même moment que nous, par exemple la Global Sumud Flotilla, qui est une autre flottille dont on a pas mal entendu parler. Et donc là, on est en train de préparer une mission historique. Tous ces mouvements de flottilles ont réussi à s'unir, et donc on va partir d'ici quelques semaines avec une centaine de bateaux en direction de Gaza. Et donc un des départs, c'est le départ depuis Marseille. Donc là, on se trouve sur le quai, sur un des quais qui s'appelait avant le quai sans nom et qui sera bientôt rebaptisé quai de Gaza, à l'Estac, sur lequel on prépare tous les bateaux à échelle internationale de l'organisation Thousand Malines to Gaza. Donc là, on a une vingtaine de bateaux, c'est des voiliers qui sont en train d'être préparés depuis plusieurs semaines, enfin depuis plusieurs semaines ici, mais en réalité pendant la plupart de l'hiver, il y a d'autres marins qui préparaient les bateaux ailleurs, et là on les a réunis depuis quelques semaines ici. Et voilà, on prépare cette mission historique, et ce dont il faut Enfin, pour expliquer un peu plus quelle est notre démarche sur cette flottille, beaucoup de médias ont considéré que les flottilles c'était de l'humanitaire. Pour nous, c'est extrêmement important de rappeler que nous ne sommes pas une flottille humanitaire, mais on est une flottille politique pour plusieurs raisons. La première, c'est que des humanitaires, il y en a déjà et qu'en fait, aujourd'hui, ils ne sont pas en capacité de faire rentrer de l'aide humanitaire dans Gaza. Et la deuxième, c'est que notre but, c'est pas d'amener de l'aide humanitaire, mais de faire en sorte que l'aide, il y en ait plus besoin pour les Palestiniennes et les Palestiniens et qu'ils aient qui puissent s'autodéterminer et gérer leur terre de manière libre et comme ils le souhaitent. Donc ça, c'est un aspect qui est quand même important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du matériel qui est destiné à Gaza sur nos bateaux, mais ce matériel-là, ce n'est pas de l'aide humanitaire, mais c'est du matériel qui permet de reconstruire Gaza et que la population puisse avoir une certaine forme d'autonomie. Chaque bateau a une thématique. On a des thématiques qui mettent en l'honneur la résistance et la résilience et la culture du peuple palestinien. Pour donner quelques exemples, on a un bateau agricole ou un bateau par rapport au monde de la pêche, qui sont deux secteurs qui sont extrêmement importants pour les Palestiniennes et les Palestiniens. Et donc sur ces bateaux, si je prends l'exemple du bateau de la pêche, on n'aura pas sur le bateau de la pêche du thon en boîte, mais on va avoir du matériel qui permet de réparer les bateaux qui sont systématiquement détruits par l'armée israélienne. Ou sur le bateau agricole, on n'aura pas des légumes, mais on va avoir des graines, des systèmes d'irrigation et des outils pour pouvoir s'occuper de leurs terres qui ont été en grande partie à Gaza, les terres agricoles détruites. Il ne reste plus que moins de 1% des terres agricoles qui sont aujourd'hui encore cultivables et ou accessibles.
Je voulais savoir, parce que tu l'as dit, en vérité, donc il y a plusieurs flottes qui vont partir de plusieurs endroits pour se réunir et donc faire cette Thousand Flotilla Madeleine, donc c'est-à-dire 1000 Madeleines pour venir briser donc ce blocus sur Gaza qui dure depuis des années, hein, qui date pas de quelques années, mais qui date de plusieurs dizaines d'années. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consistent ces préparations? Qu'est-ce que font actuellement tous les bénévoles? Parce que quand on arrive, c'est une fourmilière, il y a des gens partout qui travaillent. Moi, je suis arrivé, j'étais un peu perdu. Est-ce que tu peux expliquer ce que font ces gens-là actuellement à l'Estac?
Ouais, donc là sur le quai, donc pour que vous puissiez vous imaginer, grosso modo, on a un quai avec les 20 bateaux qui sont à l'eau et puis autour on a un bâtiment et une grande cour qu'on occupe. C'est un terrain assez immense et c'est ici que se préparent les derniers préparatifs pour ces bateaux. Donc faut savoir que pendant plusieurs mois avant, il y a des marins qui ont fait les gros travaux, notamment quand les bateaux étaient à sec, les gros travaux sur les bateaux. Et ensuite, ces bateaux, il faut les préparer pour cette mission qui est un peu particulière. C'est-à-dire que sur cette mission, on a des personnes effectivement qui sont marins, qui vont gérer les bateaux, mais on a aussi des civils, des personnalités, des médecins qui vont être à bord et qui ne sont pas des habitués du monde marin. Donc ça veut dire que déjà, ça demande une certaine adaptation des bateaux. Au-delà de ça, on a, la flottille, c'est une action médiatique, on a des trackers qu'on doit mettre en place, donc les bateaux, on doit pouvoir les suivre tout le temps, ils ont des caméras dessus, donc on a tout ce système de surveillance et de sécurisation du bateau qu'on doit mettre en place. Et puis au-delà de ça, préparer une flottille, c'est juste une mission logistique énorme. On peut même pas se rendre compte à quel point il y a des milliers de petites tâches à faire. Donc chaque matin, nous, on fait des briefs à 9h30 et à 14h. Sur lesquels on fait une liste de tout ce qu'on doit faire dans la journée et puis on dit qui est-ce qui peut s'occuper de réparer telle pièce, qui peut faire les joints, etc. Et les gens lèvent la main, on dit on a besoin de deux personnes et bon voilà, maintenant on parle en anglais parce que c'est une flottille internationale, donc on a des camarades de Corée du Sud, d'Espagne, d'Italie, des États-Unis, enfin on a des gens d'un peu partout en réalité qui sont ici et qui préparent la flottille avec nous. Et puis les petites mains, en fait, c'est je peux essayer de faire un listing, mais c'est vraiment c'est énorme tout ce qui à faire. Bon, déjà, il faut faire vivre ce camp parce qu'on a quand même 100 personnes qui vivent ici, qui dorment ici. Il faut s'occuper de la logistique juste d'un tel camp. Il y a énormément de matériel qu'on doit aller chercher. Il y a toujours des allers-retours en ville pour aller chercher du matériel. On a plein de, par exemple, sur tous les bateaux, il y a eu des meubles qui ont dû être fabriqués. Donc, il y a du travail du bois. Il y a plein de travail de réparation de la voilerie, de décoration de la voile parce que chaque bateau, ils vont avoir sur leur voile des tatrises, donc des broderies palestiniennes qui sont peintes en énorme, qui font référence à la thématique et au nom du bateau. Il y a tout le travail de récolte et de matériel pour les marins et de récolte de matériel dont on a besoin pour les bateaux, mais aussi le matériel qu'on va amener justement sur ces bateaux à Gaza. Et tout ça, c'est effectivement organisé par la centaine de personnes qui sont présents sur le camp, mais aussi par tous les habitants du coin. Et je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Là où pendant plusieurs mois, on a préparé ça un peu sans que ce soit visible. À partir du moment où on est arrivé ici, on a eu un point d'honneur à faire avec les habitants et les habitants du coin et à reprendre aussi les revendications qu'ils ont sur cet espace. C'est-à-dire que le quai sur lequel on s'est installé, c'est un quai sur lequel les habitants revendiquent le droit à la mer, parce que tout le reste du littoral est privatisé par des entreprises, par des ports. Et donc ici, c'est en fait un des seuls endroits autour de l'Estaque, autour des quartiers nord, sur lequel les habitants et les habitantes peuvent avoir un accès à la mer. Donc ce qui fait qu'il y a plein de pêcheurs, de pêcheuses, de gens qui viennent se promener. Et on a voulu faire avec ces personnes-là. Ce qui fait qu'il y a au bout de quelques jours après notre arrivée, il y a un collectif d'habitants et d'habitantes de l'Estaque qui s'est formé en soutien à la flottille avec des centaines de personnes qui ont affiché des banderoles de partout, qui gèrent les récoltes, qui ont des groupes de travail qui changent chaque semaine en fonction de nos besoins. On peut dire, bah là, on a besoin de trouver des personnalités pour monter à bord. Et il y a un groupe de travail qui va se lancer pour ça. Bon, voilà. En gros, l'idée de dire ça, c'est de montrer que cette flottille, quand on dit que c'est une flottille citoyenne, ce qu'on cherche à montrer, c'est que chaque personne peut amener quelque chose dans cette flottille, que chaque rôle est nécessaire au bon développement de cette mission. Et donc voilà, on invite toutes les personnes qui le souhaitent et à venir nous voir ici. Il y a plein de mobilisations qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Les flottilles, l'idée, c'est d'être un catalyseur de mobilisation. C'est-à-dire, c'est à un moment où, à échelle internationale, il y a des pays fascistes qui s'amusent à venir annexer telle zone, à dire qu'ils vont prendre Cuba, à venir prendre le président d'un autre pays. Enfin, grosso modo, il y a quand même une ambiance assez morose à échelle internationale de peuples qui se font réprimer, qui se font tuer. Et donc, à ce moment-là, pour nous, ça a vraiment du sens de dire, bah, en fait, là, on a une flottille citoyenne qui se bat pour la liberté, pour l'autodétermination des peuples. Et donc, effectivement, la situation internationale est dangereuse. Elle n'est pas en l'avantage de ce qu'on fait. Mais pour nous, c'est hyper important de montrer qu'il y a des peuples qui gardent la tête haute et qu'on garde le cap de la liberté pour toutes et tous. Et donc, c'est pour ça qu'on prépare une flottille aussi importante aujourd'hui.
Tu me l'as un peu dit en me disant qu'il y avait des gens qui venaient de tous les pays qui étaient présents sur cette flottille. Est-ce que tu peux me donner un peu le profil des gens qui participent et qui sont en train d'aider sur la centaine de personnes? Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que tu vois, genre, justement des gens se démarquer, ou c'est vraiment tout niveau social, toute personne qui se retrouve ici comme ça par hasard?
C'est impossible de faire un profil type, parce que pour être très honnête, il y a des personnes, on a beaucoup de personnes qui sont assez jeunes, mais on a aussi tout plein de familles qui viennent, plein de personnes qui sont dans les luttes depuis 40 ans et d'autres pour qui c'est la première expérience d'organisation collective. Franchement, on n'a pas de profil type, on a autant des marins que des personnes qui font de la communication, que des personnes qui font de la logistique, de la cuisine. On a vraiment de tous les rôles, et c'est ça qui permet aussi que notre mouvement marche aussi bien. C'est-à-dire que quand on a un besoin, on a une telle diversité de personnes qui sont ici qu'on arrive toujours à tirer des ficelles et trouver les choses dont on a besoin, et c'est ça aussi la force dans les flottilles. En vrai, c'est vraiment un défi fou de réussir à préparer 20 bateaux, mais c'est 20 bateaux ici, mais il y a d'autres bateaux qui sont préparés à Barcelone, en Tunisie, et tous ces bateaux vont se rejoindre en mer pour finir la navigation vers Gaza ensemble. C'est un défi pour toutes les personnes aussi qui ont mis leur vie de côté pour venir. Il y en a plein, enfin il y a plein d'exemples de personnes que j'ai ici qui au début devaient juste par exemple bouger un bateau entre une ville et une autre pour nous aider, et au final 6 mois après, bah ils sont toujours là en train de coordonner le pôle navigation. Enfin voilà, c'est un peu ça, cette aventure. C'est une aventure humaine assez incroyable, et puis je sais que ça donne aussi de la force à nos camarades en Palestine. On travaille quand même avec énormément d'organisations d'habitants et d'habitantes qui essayent de résister et de continuer de vivre avec dignité quand Israël essaye de juste supprimer tout ce qui fait le peuple palestinien. Et en fait, ce que nous disait, il y a quelques jours, j'étais avec une camarade qui s'appelle Mouzna Chiabi, qui est une camarade palestinienne, et qui disait, en fait, les flottilles, ça montre bien qu'Israël n'a pas réussi parce qu'ils essayaient de nous isoler, ils essayaient de couper notre culture, et au final, maintenant, c'est une flottille à échelle internationale qui vient prôner la liberté du peuple palestinien, donc ils n'ont pas réussi à être isolés. Et quand nous, on montre aussi à nos camarades palestiniens ce qui est en train de se faire ici, ça donne de l'espoir, ça montre qu'ils n'ont pas été abandonnés par les peuples qui pensent à la Palestine et qui pensent aussi à tous les autres peuples qui sont opprimés et qui vivent des génocides actuellement, parce que c'est pas le seul. C'est aussi pour ça qu'on dit qu'on est une flottille internationaliste. Effectivement, cette mission, elle est dirigée aujourd'hui vers la Palestine, vers Gaza, mais nos yeux sont aussi rivés vers tous les autres peuples qui se font opprimer, en passant du Congo au Soudan, aux camarades de Cuba et tant d'autres. Cette flottille, elle est aussi pour elles et eux. C'est une flottille de la dignité pour toutes et tous.
Après cet échange riche avec Esther, je suis parti dans le hangar dans lequel on pouvait rencontrer des militants en train de préparer cette flottille. Je suis allé leur poser la question simplement de ce qu'ils étaient en train de faire. Je voulais vous faire écouter un petit peu leurs réponses, mais c'est intéressant parce qu'on comprend mieux leurs actions actuelles pour préparer la flottille pour Gaza. Donc je suis dans le hangar actuellement, donc où tout se prépare, où toute la flottille est en train d'organiser. Alors il y a des gens qui découpent des matelas, il y a des gens qui font à manger. Et là je suis avec May dans une zone un peu particulière où on voit des cartons remplis de plein de choses autour de moi. May, bonjour, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ici ?
Actuellement, on est dans l'espace d'onde. Du coup, c'est là où les personnes, les particuliers viennent déposer des choses, que ce soit autant des vêtements, que ce soit du matériel scolaire et des fournitures scolaires, des produits d'hygiène ou du produit médical. Et moi, je m'occupe surtout de trier les produits médicaux.
Ok. Et donc, tes journées, elles consistent en quoi actuellement, là ?
Mes journées depuis 3 semaines, c'est récupérer les dons de médicaments et de matériel médical, les trier du coup en fonction des dates, en fonction des produits qu'il y a, que ce soit des médicaments ou que ce soit juste du matériel. Par exemple, on a des attelles qui viennent, on a des pansements, on a des médicaments plus ou moins spécifiques. Et à partir de là, moi, mon rôle, c'est de trier à quel point est-ce que ça peut être utile à prendre sur bord ou pas, parce qu'on a quand même des espaces limités à bord des bateaux. Et du coup, on prépare là depuis 3 jours des cartons d'aide humanitaire en matériel médical qu'on aimerait pouvoir faire accoster à Gaza.
Ok, merci beaucoup May. Et là, j'arrive dans une zone où on voit une très très grande voile qui est pliée en plein de petits bouts et on voit une très très belle machine à couture à l'ancienne. Là, on dirait qu'elle sort tout droit des années 1900. Et j'ai Marin dans une veste mauve. Marin, est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous êtes en train de faire actuellement ici ?
Oui, bien sûr. Donc, on est plusieurs là sur ce poste-là. Donc, les collègues qui font de la couture à la machine et moi, je fais de la couture à la main. L'idée, c'est de reprendre un petit peu tous les points de la voile qui sont fragilisés et de remettre une couche de tissu ou de sangle et de coudre. Donc, selon les endroits, on peut à la machine ou on peut pas. Et du coup, là, il faut faire à la main. Donc, on perce et après, on coud. Voilà.
Et là, je suis avec Koro qui est accroupi devant un carton et des mousses. Donc, Koro, est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous êtes en train de faire là actuellement ?
Là, on est toute une team en train de construire un gabion, la proue du char en soutien à la flottille qui va aller au carnaval demain. Et donc là, on est en train de faire un gabion géant en mode marionnette.
Après ce passage par le hangar, j'ai retrouvé un militant, un marin, un pur et dur, Léo, qui m'a invité gentiment sur son bateau, le Mektoub, donc un magnifique voilier repeint aux couleurs de la Palestine, et dans lequel j'ai pu poser quelques questions, essayer de comprendre en quoi consiste la préparation pour cette flottille. Et là, je suis dans un nouveau voilier, un voilier magnifique, on dirait un bateau pirate, tout est en bois, c'est assez classe. Et je suis avec Léo qui est sur la préparation de cette flottille depuis plusieurs mois maintenant, qui est marin et qui va partir avec la flottille donc sur ce groupement qui part pour Gaza très prochainement. Léo, bonjour, est-ce que tu peux nous expliquer ton engagement, pourquoi tu es ici actuellement ?
Bah, je suis ici parce que comme beaucoup, ce qui se passe en Palestine, ça m'indigne. C'est une cause qui m'a toujours porté dans l'engagement militant et pouvoir avoir une action concrète aujourd'hui alors que c'est un sujet qui est un peu disparu des radars. Les flottilles, c'est quelque chose... j'ai pas participé à la première vague, j'ai vraiment rejoint le mouvement à partir de la deuxième parce que c'était quelque chose pour moi qui faisait sens. Et donc, comme j'avais du temps devant moi, j'ai pu rejoindre la préparation de la deuxième vague dès le début.
Est-ce que tu peux me dire, Léo, en quoi ça consiste votre préparation et à quoi vous préparez toi en tant que marin ? J'imagine qu'il y a de la préparation technique aussi. Est-ce que tu peux nous dire, parce que moi j'ai du mal à imaginer comment on coordonne des dizaines, des centaines, des milliers de bateaux pour aller sur un même point. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne à peu près ?
Déjà les premières étapes, ça a été d'acheter et de trouver les bateaux. Donc on a été pendant plusieurs mois sur un grand port à sec pas loin de Marseille où on a pu acheter des bateaux sur place. Et les retaper. Alors les premiers bateaux qu'on a achetés, c'était comme celui-là, donc le Mektoub sur lequel on est aujourd'hui. C'est des bateaux sur lesquels il y avait pas mal de boulot. Au début, on n'avait pas forcément les fonds nécessaires, donc on essayait vraiment de trouver les bateaux bon marché. Et comme on savait qu'on avait plusieurs mois devant nous, on savait qu'on aurait le temps de leur taper. Et après, les choses ont commencé à s'accélérer un peu, les moyens aidant, on a acheté des bateaux un peu plus récents. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous en France, là, on est 20 bateaux et on va rejoindre en mer donc les bateaux des autres organisations dont la Soumoud et la FFC. Et donc on devrait être environ 100 bateaux. Donc après, la coordination en mer, c'est quelque chose qu'on travaille. Et bon, c'est quelque chose d'inédit. On en discute beaucoup et on verra aussi comment ça va se passer. Et déjà, nous, sur le convoyage d'ici jusqu'en Italie, ce sera déjà une première expérience, nous déjà sur notre groupement de 20, et pouvoir tester des choses qui marchent ou qui marchent pas. Et voilà.
Et est-ce que tu peux me dire, alors, parce qu'on le rappelle, hein, sur les précédentes flottilles, la plupart ont été arrêtées par le gouvernement israélien, dans les eaux internationales d'ailleurs, pour la plupart. Est-ce que tu peux nous dire si vous avez une préparation à ça, si vous avez une préparation à ce qui va arriver si jamais le bateau est arrêté, que vous êtes arrêté par le gouvernement israélien, emprisonné? Est-ce que vous êtes préparé à ça? Est-ce que vous préparez à ça?
Oui, bien sûr. C'est quelque chose qu'on évoque régulièrement. Il va y avoir des trainings qui vont avoir lieu préparés. C'est des trainings qui ont été préparés par des personnes qui connaissent très bien ces sujets-là. Et en plus, comme on a le retour d'expérience de toutes les personnes qui ont participé déjà à la première vague, on sait exactement à quoi s'attendre. Et donc, tous ces sujets sont évidemment évoqués avec toutes les procédures concrètes qui en découlent.
Et toi, personnellement, encore une fois, est-ce que tu ressens de la peur? Est-ce que tu appréhendes ce départ? Est-ce que tu appréhendes ce qui va se passer ou pas?
À l'appréhension, là, actuellement, c'est encore un peu tôt pour qu'elle soit là. Ce qui est sûr, c'est que plus la date du départ approche, plus on commence à rentrer dans des discussions, dans un process où on check vraiment tout. Ce qu'il faut dire, c'est que nous, on n'est pas du tout en train de faire quelque chose d'inconscient. Le but du jeu, c'est d'être que les bateaux soient prêts et que chaque étape soit checkée. Et c'est de cette manière, en étant très procédurier, qu'on évite de partir dans quelque chose où on a peur parce qu'on se sent pas préparé. Évidemment, de la pression, il y en aura, surtout sur l'étape finale du voyage. En étant bien préparé, on évite d'être trop stressé, de faire des choses qu'il faudrait pas faire. Voilà. Donc, c'est vraiment dans la préparation sur le long terme. Et c'est comme ça qu'on arrive à monter des opérations comme celle-là. Bah merci à tous ceux qui viennent nous donner de la force sur le chantier, ça fait vraiment plaisir et qui aident à médiatiser ce qui se passe et ouais, on en a besoin, donc c'est vraiment cool.
Avant de quitter l'Estac et cette flottille qui m'a grandement impressionné en termes d'engagement, en termes d'international, puisque je le rappelle, il y avait des gens du monde entier qui étaient présents pour préparer cette flottille. Je suis retourné voir Esther pour lui poser une dernière question. Je vous laisse écouter sa réponse. Donc ma question pour clôturer, c'est quand même, si on est sensible à la cause et que voilà, on a des idées humanistes et qu'on se dit ben moi je peux pas venir aider parce que j'ai pas le temps ou je suis pas disponible ou je suis trop loin, mais qu'on veut soutenir la flottille ou en tout cas les gens à l'Estac, qu'est-ce qu'on peut faire actuellement là en tant que citoyen à Marseille ou ailleurs d'ailleurs?
Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour soutenir la flottille. Bon, la première, c'est ce que je disais tout à l'heure, la flottille, c'est un catalyseur de mobilisation. Elle ne fonctionne que si les gens se saisissent de cette ouverture médiatique qu'on va faire sur la Palestine, parce que depuis le cessez-le-feu, il y a une tendance dans les médias à juste ne plus parler de la Palestine. Il y a une tentative de faire comme si la question palestinienne était résolue. Or, en réalité, la Palestine se fait toujours autant attaquer, le génocide continue, la famine continue, mais au-delà de ça, il y a eu un conseil de la paix géré par des forces fascistes qui, grosso modo, sont censées dire ce qui va se passer en Palestine. Donc l'autodétermination du peuple palestinien a jamais été aussi loin, donc l'attaque contre le peuple palestinien a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui, malgré ce qu'on essaye de nous faire croire avec ce cessez-le-feu. Donc il y a plein de choses en réalité qu'on peut faire pour aider cette flottille. La première, c'est parler de la Palestine, parler des peuples opprimés, organiser des événements. On a sorti par exemple il y a quelques jours un film qui s'appelle Madeleine sur le compte YouTube de de Thousand Madlines to Gaza, qui est accessible à toutes et tous, qui peut être diffusé comme on veut dans tous les lieux associatifs, chez nous, etc. Il y a aussi évidemment un gros besoin de relais dans toutes les organisations, que les assemblées populaires, les assemblées de quartier, que les gens se saisissent de cette question-là et viennent aussi faire des actions contre ce qui, autour d'eux, permet le génocide en Palestine. Il y a énormément d'entreprises, que ce soit Starbucks, Carrefour, BNP Paribas, et il y en a vraiment une liste sans fin d'entreprises qui, quand on va acheter ces jeux, s'enrichissent et donnent de l'argent aux industries qui permettent le génocide. Donc c'est hyper important de visibiliser ça, de faire des actions contre ces industries-là. Et puis pour finir, évidemment, construire une telle flottille, ça demande des coûts assez faramineux, malgré le fait qu'on essaye de faire baisser les coûts au maximum, que toutes les personnes ici, depuis des mois, sont bénévoles. Mais du coup, on a une cagnotte sur la page de Thousand Madlines to Gaza, France. Et du coup, il y a complètement moyen de faire des contributions aussi financières pour nous aider à financer les bateaux qu'on doit acheter, financer tout le matériel qui est dessus, la préparation des trainings, parce qu'avant de monter sur les bateaux, on a une semaine entière de training, tous les coûts logistiques de ce que c'est, avoir des trackers en direct, des bateaux en direct à plein temps. Enfin, voilà, c'est une logistique assez folle, mais qui demande des moyens assez conséquents. Et puis évidemment, il y a tous les Palestiniennes et les Palestiniens qui s'organisent dans des comités populaires dans Gaza, que ce soit en faisant des écoles sous des tentes, des écoles de boxe, les camarades paysans et paysannes. Et puis il faut penser à soutenir aussi toutes les initiatives qui font que les Palestiniennes et les Palestiniennes font encore société à Gaza.
Eh bien, merci Esther, on continuera donc de suivre votre aventure. Merci en tout cas de votre engagement et bon courage avec tout ce qui vous attend.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est la fin de ce reportage sur la flottille pour Gaza, le mouvement international pour briser le blocus sur Gaza. Vous pouvez bien sûr suivre cette flottille sur les réseaux sociaux pour mettre les caméras et la lumière sur leurs actions. Pourrez savoir s'ils arrivent à briser ce blocus israélien et à amener donc de l'aide humanitaire à Gaza. J'ai été particulièrement impressionné et touché par l'action de ces militants et bénévoles qui viennent du monde entier et qui ont travaillé tous ensemble dans l'idée, de rappeler ce qu'est le droit international, de rappeler ce que sont les valeurs de notre pays, mais aussi de tous celles et ceux qui défendent le droit international, les droits de l'humain. Je reprendrai que souvent le courage c'est le prix de la dignité, le courage c'est de pas se laisser abattre et face aux malheurs de notre monde c'est de rester dans l'action et de ne pas faire grandir la colère mais au contraire essayer de nourrir de l'empathie pour ceux et celles qui sont opprimés. Donc bon vent à la flottille pour Gaza et en espérant avoir de leurs nouvelles et qu'elles soient bonnes. Thank you.
Thank you.